On est rendu à Marc chapitre 11. J'ai intitulé le message de ce matin « En route vers Jérusalem ». Et Jésus fait un premier arrêt au temple. On arrive dans la dernière section de l'évangile de Marc. Alors, il y a 16 chapitres dans Marc. Et à partir du chapitre 11, c'est ce qui débute, ce que certains appellent la semaine sainte ou la semaine de la Passion. C'est l'aboutissement du ministère de Jésus-Christ sur la terre. C'est la dernière semaine, le point culminant de la venue de Jésus sur terre. Pourquoi qu'il est venu? Les derniers chapitres de l'Évangile de Marc vont rapporter les événements de cette dernière étape dans son ministère. Si c'est la dernière semaine de Jésus en tant que Fils de l'homme, parce qu'on sait qu'il va passer après la résurrection un autre 40 jours avec ses disciples en particulier, cette dernière semaine, je peux vous dire, c'est une grosse semaine. Une grosse semaine dans la vie de Jésus. Et certainement la semaine qui va être la plus éprouvante de toute sa vie. Cette semaine-là commence le dimanche matin par son entrée triomphale dans les rues de Jérusalem. Il est acclamé comme le roi, le fils de David, le Messie qui devait venir. Et ce qui est particulier, les quatre évangiles, ce qui n'est pas souvent commun, on a souvent les trois premiers évangiles qui rapportent des événements qui sont similaires. Jean est un peu dans une classe à part, souvent rapporte d'autres événements, d'autres choses que Jésus a fait ou enseigné. Mais ici, les quatre évangiles rapportent cet événement-là qui s'est passé, qui est un peu particulier, qui est très important et qui a beaucoup de signification, même pour nous. C'est que Jésus, le Messie promis, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, entre à Jérusalem, qui est son entrée triomphale, sur le dos d'un ânon, le petit d'une ânesse. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu? Parce qu'il était quoi? OK. À cause de la prophétie. On voit aussi qu'il a fait un premier arrêt au temple, où il a pris le temps de faire une inspection exhaustive du temple, de son état. Et là, étant donné l'heure tardive, ça dit qu'il a quitté le temple avec les 12 pour aller passer la nuit dans la ville de Béthanie, qui était située à environ 3 kilomètres de Jérusalem, où ses amis Lazare, Marthe et Marie vivaient, et on croit qu'ils lui ont offert le gîte. On voit ça dans Jean 12, 1 et 2. Ce qui est spécial que Jean nous rapporte, Marc, si c'est le même événement, il en parle dans Marc chapitre 14, donc il en parle comme si ça arriverait plus tard, mais Jean le situe, cet événement où Jésus est allé chez Lazare, Marthe et Marie, même avant d'aller à son entrée triomphale, il est retourné là, mais avant d'arriver, il est allé là, puis c'est lors de cette occasion où il est arrivé chez ses amis Lazare qui avait ressuscité pas longtemps avant, et Marthe et Marie qui étaient ses deux sœurs. Lorsqu'il est arrivé là, 6 jours avant la Pâque, donc ce qui voudrait dire le dimanche, c'est l'entrée triomphale. Alors, il est arrivé le samedi chez Marthe, Marie et Lazare. Et lors de cette occasion, Jean nous donne un événement qui s'est passé qui est assez intéressant. Parce que c'est à ce moment-là que la même Marie qu'on a parlé dimanche passé dans Luc, qui s'était assise au pied de Jésus pour l'écouter, et Jésus a dit qu'elle avait choisi la bonne part, au lieu de s'énerver puis s'assurer qu'elle offre un super de repas, presque parfait, à Jésus et ses invités, ses disciples. Marie s'était assise au pied de Jésus et Jésus dit, elle a choisi la bonne part. Mais ici, on voit dans Jean 12, 6 jours avant la Pâque, donc le samedi avant son entrée triomphale, que Marie a oint les pieds de Jésus avec un parfum d'une grande valeur, afin de lui manifester la grandeur de son amour. La même Marie. Et lorsque Marie a offert ce parfum de grande valeur, et la valeur du parfum, savez-vous comment ça valait? Ça valait un an de salaire, 300 deniers, ce qui était un denier qui était le salaire d'une journée, et quand on enlevait les sabbats, tout ça, donc c'était l'équivalent de deux une année de travail. Maintenant, comment ça vous prend de temps, vous autres, à économiser une année de travail? Si vous gagnez, mettons, 40 000 $, combien d'années ça va vous prendre pour économiser 40 000 $? Il y en a qui n'y arriveront jamais. N'est-ce pas? Combien d'entre vous... Ah, là, il y a quelque chose de bon qui est arrivé, là. Combien d'entre vous avez en économie une année de salaire? En économie, vous avez ça de côté, là, à quelque part, soit caché dans votre matelas, ou placé à quelque part, ou dans un terrain, ou dans une bâtisse à quelque part, ou quelque chose de même. Vous avez l'équivalent d'une année. Ah, il y en a qui sont gênés, hein, de lever la main. Soit que vous ne voulez pas le dire, ou bien non, il n'y en a pas 20-20. J'ai vu une main, moi. Combien est-ce qu'il y en a qui ont une année? Puis là, je vais regarder certaines personnes. S'ils ne lèvent pas la main, là, je le sais. Je le sais, là. OK, OK. C'est bon. David, c'est bon. Au moins, tu as eu le courage de lever ta main. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pensez-y, là. Marie, elle est venue répandre sur Jésus, dans Jean, on voit que c'est sur sa tête. Dans Marc, ça serait sur ses pieds, si c'est le même événement. Je ne suis pas sûr encore, donc c'est pour ça que je vous dis que si c'est le même, parce qu'il y a des choses similaires, il y a des choses différentes, mais ça se peut que ce soit le même événement. Autrement dit, elle a répandu ce parfum, puis Jésus dit, en fait, elle a fait ça comme préambule à ma sépulture. Et elle l'a fait... Elle le fait avec un bon cœur. Savez-vous ce qui s'est passé? La pauvre Marie. La première fois qu'elle a choisi la bonne part, elle s'est faite critiquer par sa sœur Marthe, qui était énervée, puis souper presque parfait, puis là, je n'y arrive pas, puis il y a trop de choses à faire, puis là, comment je vais finir mon temps, puis ta-ta-ta-ta-ta. Puis là, Jésus dit, Marthe, assieds-toi, repose-toi, respire, prends le temps. Moi, savez-vous ce que je crois, là? Honnêtement, savez-vous ce que je crois? Jésus, là, s'en foutait de ce qu'il allait manger. Moi, c'est ce que je pense. Il aurait mangé du pain sec avec des raisins, puis un petit peu de fromage, peut-être un petit peu de vin. Ça aurait été correct pour lui. Hein? Qu'est-ce qu'il voulait, Jésus, lui? Moi, je veux avoir une relation. Moi, ça ne me dérange pas que tu m'impressionnes par combien c'est un... service à 5 couverts, ou à 2 couverts, ou à 1 couvert, ou à pas de couvert. Moi, je veux passer du temps avec vous autres. Le repas, c'est correct, là. Il faut manger, mais c'est pas ça qui est important. Mais là, ici, Marie a fait ça. Et là, il faut comprendre le cœur de Marie, là. Comment est-ce qu'une personne peut faire ça? Il y a juste une raison que je vois. C'est qu'elle aime Jésus. Elle a connecté. Moi, je pense qu'elle a connecté avec Jésus. Total. Pour elle, l'argent, c'est plus important. Son fonds de pension, c'est pas important. Comment qu'elle a travaillé fort. Elle a Jésus devant lui, devant elle. Et la seule chose qu'elle pense, c'est qu'il est digne de mon investissement. Pauvre Marie. Hein? Es-tu naïve? Es-tu naïve, Marie? Pourquoi gaspiller autant d'argent sur Jésus? Hein? C'est pas ce que certains disciples ont pensé. Dont Judas Iscariote. Ce qui me fait dire à moi ceci. Vous savez, dans Marc 10, Marc nous montre que c'est dur de vivre dans un monde d'adultes quand Jésus nous demande de le suivre avec un cœur d'enfant. Et ici, Marie nous montre que c'est dur de choisir la bonne part et d'aimer Jésus, de l'adorer dans un monde d'adultes où les priorités sont sur les choses matérielles. Oui. Elle ne voulait pas passer à côté l'occasion d'exprimer à Jésus son amour. Oui, de tout son cœur. Vous savez, je suis un peu fatigué. Fatigué de l'Église. De la vie d'Église. Où Jésus n'est pas le point de mire. Je comprends pas pourquoi que c'est pas vendeur. De parler de Jésus. Pourquoi que Jésus nous motive pas plus, vous et moi? Pourquoi qu'il est pas plus attirant à nos yeux? Pourquoi ce n'est pas ça qui est notre force motrice, qui nous anime? Ah, si le Seigneur pouvait nous donner des cœurs comme Marie, les choses changeraient, vous savez. Notre façon de faire les choses changerait. Notre façon de voir les priorités changerait. Notre façon de parler changerait. Oui, nos cœurs sont partagés. Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous donner un cœur comme Marie. Amen. Vous savez, le lendemain matin, ce qui se trouve être le lundi, c'est là qu'il est parti pour Béthanie, pour retourner à Jérusalem. Unfinished business. Vous savez c'est quoi? Il dit qu'il n'avait pas terminé ce qu'il voulait faire, parce qu'il était tard. Quand il est allé voir le temple, il a fait l'inspection du temple. Et là, ça dit parce qu'il était tard, il est reparti. Alors le lendemain, il retourne à Jérusalem pour aller faire ce qu'il, je crois, avait eu l'intention de faire. Et là, ça dit qu'en chemin, il a eu faim, puis il est allé vers un figuier qui était au bord du chemin. Donc, c'était propriété publique, s'il était au bord du chemin. Il a voulu prendre quelques figues, mais il n'en a trouvé aucune. Marc souligne alors un autre détail important. Jésus, le Messie promis, a maudit le figuier de sorte que personne ne puisse manger de son fruit. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que c'est parce qu'il était impatient? Il était frustré? Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Ensuite, il a continué son chemin, et là, il est retourné au temple, où là, il a fait une intervention qui est tellement musclée que même le célèbre Arnold Schwarzenegger en aurait eu le souffle coupé en disant « Jésus, il peut faire ça! » Ça a brassé dans le temple. Et là, on voit un Jésus qui est assez en colère. Faut le dire, il est assez en colère. Et c'est pas la première fois. Pas la première fois. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qu'on peut apprendre des deux premières journées dans la semaine sainte ou dans la semaine de la Passion du Christ? Qui se trouve être le lundi et le mardi, si on inclut le samedi où là Marie a versé sur Jésus, alors ce serait 3 jours. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce que Jésus veut nous montrer ce matin? J'aimerais vous inviter à prier avec moi avant que je lise le texte. Oh, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ce qu'elle nous enseigne. Merci pour qui tu es. Merci d'être patient, Seigneur, avec moi. Parfois, Seigneur, j'aimerais que mon cœur brûle autant que celui que Marie et que je puisse être détaché de tout ce qui m'environne pour juste t'aimer, toi, comme tu en es digne. Seigneur, tu es tellement unique. Tu es tellement un Dieu merveilleux, comme on a chanté ce matin. Un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut le meilleur pour nous, un Dieu qui a donné tout ce qu'il avait à donner pour qu'on puisse te connaître et goûter à ton amour et à ta paix. Seigneur, pourquoi notre amour est si partagé? Est-ce que tu peux venir vers nous ce matin? Peux-tu venir à notre secours, Seigneur Jésus? Changer notre cœur, ouvrir notre cœur, le détacher de tout ce qui a besoin d'être détaché et l'attacher à toi, Seigneur Jésus, qu'on puisse goûter à ton amour et le vivre à chaque jour et vivre de toi, Seigneur Jésus. Ouvre nos yeux ce matin pas seulement notre intelligence pour qu'on comprenne, mais les yeux de notre cœur, pour que ton esprit ait accès à nos cœurs, qu'il n'y ait pas de résistance ce matin, mais qu'on soit simplement à tes pieds, Seigneur Jésus, comme Marie, qui voulait t'écouter, qui voulait t'observer, t'admirer, et qui a posé ce geste d'amour envers toi, en oignant ta tête, possiblement tes pieds. Ô Seigneur, je sais comment ton cœur a ressenti son amour. Tu savais qu'elle le faisait pour toi. Et tu en as été touché, Seigneur Jésus. Tu aimes que l'on t'aime. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir donné ces quatre évangiles qui nous reflètent une partie de ton enseignement, une partie de qui tu es et de ce que tu as fait pour nous. On vient à toi, Seigneur, ce matin. Merci d'être là, de nous entendre. En ton nom, Jésus. Amen. Alors, le récit de ce matin, c'est dans Marc 11, 1 à 19. La première partie, c'est l'entrée triomphale à Jérusalem. Donc, le dimanche. On lit ceci, les versets 1 à 11. « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, qui était probablement Bethphagée. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela? » Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera partir. Ils s'en allèrent, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous là? Et pourquoi détachez-vous cet ânon? » Ils répondirent, « Comme Jésus l'avait dit. » C'est-tu le fun dans ce temps-là, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? OK. On les laissa aller. Alors, comment est-ce que Jésus a arrangé ça? Aucune idée. Il y avait un horaire très, très occupé, là. Alors, c'est un ange qui avait parlé à ces gens-là en disant, « Il y a quelqu'un qui va venir, il va demander... » On ne sait pas exactement le contexte, comment c'est arrivé, mais une chose est sûre. Ils ont juste dit, un peu comme si... Bon, non, ce n'est pas une bonne comparaison, je ne le dirai pas. Mais ça montre comment Jésus avait quand même... Il était en contrôle, hein? Même des détails. Des détails comme ceux-là, Jésus vient. Et là, ils font, et voilà, ils le laissent aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Probablement ceux qui ne voulaient pas que leurs vêtements salissent, je ne sais pas, ou qui n'en avaient pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est l'accueil du roi des rois, du fils de David. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Et la scène devait être extraordinaire. C'était la réjouissance. Le peuple juif, le peuple d'Israël accueillait son Messie avec réjouissance. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, alors c'est là où il fait l'inspection, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, c'est la bénédiction contre un figuier et ensuite la purification du temple. Donc, les versets 11, 12, chapitre 11, 12 à 14, la malédiction. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose, mais s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Donc, normal qu'il n'y ait pas de figues, ce n'est pas la saison des figues. Qu'est-ce qui se passe ici? Verset 14, il prit alors la parole et lui dit, « Que jamais personne ne mange plus de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent dire cette parole. Continue son chemin, versets 15 à 19. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser. Alors ici, c'est le même mot que pour chasser des mauvais esprits, chasser des démons. Ici, ça dit, il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient le temple. Pensez-vous qu'il s'en allait? Hein? Jésus, je pense qu'il était très convaincant. Kioum, il jetait dehors, il chassait. Et ceux qui achetaient, non seulement ceux qui vendaient, mais ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Alors, il y avait toute une commotion. Verset 16, il ne laissait même personne transporter un objet à travers le temple. Est-ce qu'il est en contrôle? Il est en contrôle. Et là, ça dit, les enseignants disaient, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent les moyens de le faire périr. Ils le craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Alors, voici la fin de la deuxième journée. On est à la fin de lundi. Alors, trois choses sont assez surprenantes ici. La première, ça touche à l'utilisation d'un ânon. La deuxième, la malédiction du figuier. Et la troisième, c'est l'intervention musclée de Jésus dans le temple. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner avec ça? Alors, pourquoi Jésus a utilisé un ânon? Et pourquoi Marc, et spécialement Marc, s'intéresse-t-il à tant à cette scène en soulignant autant de détails? Vous savez, juste pour cette section-là, il y a 7 versets sur 11 qui est attaché à cet aspect-là de l'utilisation d'un ânon. Premièrement, Marc, en donnant autant de soin aux détails, veut montrer que Jésus connaît toutes choses et qu'il est en contrôle des moindres détails. Donc, même si c'était la dernière semaine où il semble que les événements se bousculent et vont de plus en plus rapidement, et que là, le fils de David, le fils de l'homme, est emmené sur une croix comme si c'était les gens qui l'emmenaient là. Même ici, on voit que Marc veut souligner que, regarde, Jésus, il est en contrôle, même des petits détails, même des détails comme ceux-là face à l'ânon sur lequel il va monter. Jésus a la situation bien en main. Maintenant, c'est une réalité qui va s'avérer très importante pour les disciples dans les jours qui viennent, parce que, vous savez, dans les jours qui viennent, ils vont sentir qu'eux perdent le contrôle. Vous savez, lorsque les événements nous dépassent et que l'on n'est plus capable de suivre le rythme parce que ça va trop vite, ça vous arrive, ça? Hein? Ça va tellement vite, des fois. On ne sait plus ce qui se passe. Mais la seule chose qui nous garde la tête hors de l'eau, c'est cette vérité que Dieu est en contrôle. Que Dieu est au contrôle des moindres détails de notre vie. C'est ce qui s'appelle la souveraineté de Dieu. Savez-vous ce que veut dire en pratique la souveraineté de Dieu? On le voit avec Job, où Dieu est toujours en contrôle, même si Satan vient et réclame de plus en plus à Dieu de permettre des circonstances très dures dans la vie de Job, mais on voit que même Satan a besoin d'avoir la permission de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et la souveraineté de Dieu dans la pratique pour nos vies, c'est ceci, c'est que Dieu place une clôture autour de notre vie. Et cette clôture-là, elle est infranchissable. Oui, Dieu peut la rétrécir, comme on voit dans le cas de Job. Alors, au début, elle était beaucoup plus grande, et Dieu dit à Satan, « OK, tu peux toucher à ça, tu peux toucher à ça, tu peux toucher à ça. » Puis à la fin, il reste pratiquement juste Job. Et là, on voit quand Dieu intervient, il a rétabli la clôture de Jacques, et même il l'agrandit, cette clôture-là, en lui donnant encore plus que qu'est-ce qu'il avait avant qu'il soit éprouvé. Mais ce que Dieu avait, c'est qu'il voulait faire du bien à Job. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Lorsque Dieu permet des circonstances difficiles, qui font pas de sens humainement parlant, qui sont même pas, c'est même pas juste. Comme Jésus qui va à la croix, c'est pas juste. C'est pas juste qu'est-ce qu'on lui fait endurer. C'est pas juste la semaine qu'il va vivre. Il y a rien de juste là-dedans. Mais une chose est sûre, c'est la souveraineté de Dieu. Et là, Dieu veut accomplir son plan. Mais il ne laissera jamais son fils, sauf à un moment donné, pour une raison bien particulière. Et on va le voir plus tard. Dieu place autour de chacune de nos vies une clôture de protection. C'est lui qui est en contrôle. Et lorsqu'il arrive des événements, qu'est-ce que Jésus faisait, lui? S'il était méprisé, critiqué, rejeté, pas compris, mal compris, qu'est-ce que Jésus faisait? L'apôtre Pierre qui était témoin de Jésus, il s'en remettait tout le temps à son Père, tout le temps. À chaque fois, il se tournait vers son Père. Ça, c'est un cœur qui croit à la souveraineté de Dieu. Maintenant, deuxièmement, en utilisant un anneau, Jésus veut laisser un signe clair de la raison de sa venue sur terre. Normalement, un roi qui revenait triomphant d'une croisière aurait traversé la ville sur le dos d'un cheval, montrant sa puissance et sa prestance. D'ailleurs, l'empereur Vespasien, en l'an 70, donc après Jésus-Christ, en l'an 70, lorsqu'il a pris Jérusalem, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a traversé la ville sur un cheval, parce qu'il était puissant, conquérant, ce qui était le signe du cheval. Qu'est-ce que vous penseriez du premier ministre du Canada arrivant dans une Kia Rio? C'est quoi l'organisme là, qui évalue les autos, tout ça, en tout cas? Ils disent que c'est le pire citron, là. Kia Rio. Ou encore dans une Hyundai Accent. Alors, vous comprenez que c'est les modèles de base de Kia et de Hyundai. Lors d'un sommet du G12, il y aurait des critiques dans les journaux, ça serait épouvantable. Hein? Tout le monde, là, tout à coup, dirait « Hey, que c'est ça, cette affaire-là? » On ne peut pas nous représenter comme du monde. Mais vous savez, l'âne, justement, représentait quelque chose. Et c'est exactement ce que Jésus voulait communiquer. L'âne représentait la paix. Et encore plus, même un ânon, parce que c'était un petit. Donc, il n'avait jamais été monté. Ça représentait la paix, la douceur et la tranquillité. Hein? Tout comme la zézette de Lucien. Là. Vous connaissez, là? Vous avez vu Lucien, c'est sa petite brouette, là, sa petite... Pout, pout, pout. C'est pas une Harley Davidson. Donc, Jésus entre sur le dos d'un ânon, le petit d'une ânesse, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, pour indiquer qu'il est le roi de paix, plein de douceur et de grâce. Et en le faisant, justement, il a accompli, comme il était mentionné tantôt, la prophétie. Et cette prophétie-là est en Zacharie 9:9, qui dit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem, voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux. » Il est humble, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Spécial, hein? Accessible à tout le monde, c'est ce que Jésus est, oui, c'est ce qu'il veut enseigner. Mais c'est sûr qu'eux, en l'acclamant comme le roi victorieux, c'est pas ça qu'ils voulaient, là. C'est pas pour ça qu'ils vont se revirer de bord aussi assez vite. Parce que là, Jésus ne vient pas en tant que roi conquérant. Il vient en tant que roi souffrant, roi serviteur, celui qui s'apprête à donner sa vie. Au verset 1 de Marc 11, il est mentionné que Jésus a terminé son parcours à quel endroit? Avez-vous remarqué? À quel endroit il a terminé son parcours dans son entrée triomphale? Ça dit dans le texte qu'il a terminé au Mont des Oliviers. Maintenant, ce n'est pas le parcours habituel d'un voyageur qui arrive de Jéricho. Normalement, il aurait commencé à Béthanie, ensuite il aurait fait Bethphagée, ensuite il aurait été au Mont des Oliviers et il aurait terminé à Jérusalem. Pourtant, Marc, lui, mentionne premièrement Jérusalem, ensuite Bethphagée, Béthanie et finit avec le Mont des Oliviers. Pourquoi? Il y a un but, là. Il veut attirer l'attention. Et Marc désire mettre l'emphase sur le point culminant de la passion de Jésus, qui est Jérusalem. C'est pour ça qu'il commence avec Jérusalem. Puis il veut souligner ensuite l'endroit d'où le Messie doit venir une deuxième fois, selon la prophétie de Zacharie 14, 4 à 11. Parce que le Messie va revenir. La première fois, il vient à Jérusalem, et la deuxième fois, il vient où? Il vient sur le Mont des Oliviers, Zacharie 14, 4 à 11, on lit ceci. Ses pieds, en parlant du Messie, de Jésus, se placeront en ce jour-là sur le Mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Le Mont des Oliviers se fendra par le milieu, vers l'est et vers l'ouest, et une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Astal. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et vous savez, comme moi, avec les événements qui se passent, que quand il y a un tremblement de terre, on prend nos pattes et on s'en va le plus loin possible du tremblement de terre. L'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints seront avec lui, avec toi. Alors, en ce jour-là, il n'y aura pas de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alors, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers l'autre mer. Il en sera ainsi, été comme hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le Dieu unique, et son nom sera le nom unique. Tout le pays deviendra comme la Araba de Geba à Rimmon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et demeurera à sa place depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananil jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem demeurera en sécurité. Amen. Jésus va revenir un jour. Et peut-être que son retour est bientôt. Maintenant, l'autre chose qu'on voit, c'est la malédiction d'un figuier. Alors, le lendemain, ce qui se trouve être le lundi matin, Jésus retourna à Jérusalem. En route, étant sorti de Béthanie où il avait passé la nuit, Jésus eut faim. Probablement, il n'avait pas pris son petit déjeuner, ce qui est une possibilité. Certains pensent même que c'était très tôt le matin. Il vit de loin un figuier qui avait des feuilles. Alors, normalement, lorsqu'il y a des feuilles dans un figuier, c'est le signe qu'il y a des fruits. Alors, des figues. Donc, Jésus s'approche de l'arbre, pensant que, étant donné qu'il y a des feuilles, même si ce n'est pas la saison des figues, il devrait y avoir des figues. C'est ce que Jésus anticipe. Mais, il y a un triste constat. Il n'y a que des feuilles. Il n'y a aucun fruit. Est-ce surprenant? Oui et non. Non, parce que ce n'est pas la saison des figues, où normalement il y a des figues, mais oui, parce qu'il devrait y en avoir, étant donné qu'il y a des feuilles. Donc, oui, l'arbre était précoce. Est-ce que c'était inhabituel? Bien, ça devait arriver à l'occasion, dépendamment de l'endroit où était situé. Le soleil, la terre, la richesse de la terre, l'eau, un peu comme dans le psaume 1, hein, où ça parle que l'arbre qui est bien enraciné va porter du fruit. Alors ici, Jésus n'en trouve pas. Alors, qu'est-ce qu'il veut montrer par cela? Et je pense que ce qu'il est en train de montrer Jésus, c'est quelque chose comme ceci. Parce que Jésus s'adresse directement à l'arbre, comme si c'était une personne. Et c'est peut-être une image, justement, d'Israël, de la nation d'Israël. Il dit à l'arbre que jamais personne ne mange de ton fruit. Jésus maudit l'arbre à cause de son apparence trompeuse. Ayant l'apparence de fruit, il n'y a en réalité rien. Ce qui représente parfaitement la condition spirituelle de la nation d'Israël à l'époque de Jésus. Et là, le fait qu'il va purifier le temple a un lien aussi avec ce qu'il vient de découvrir avec cet arbre, où il y a des feuilles, mais il n'y a pas de fruits. La nation d'Israël est stérile et elle est dominée par l'hypocrisie religieuse. Pourtant, Jésus aurait dû y découvrir une abondance de fruits, puisque cette nation avait reçu les oracles de Dieu. On voit ça dans Romains 3, 2. Donc, ils ont eu des privilèges. Ils auraient dû porter du fruit. Ça aurait dû faire une différence dans leur vie. Dans l'Ancien Testament, le figuier est souvent utilisé pour représenter la nation d'Israël, comme dans Osée 9, 10. Donc, c'est facile de faire le lien entre l'arbre, la condition de l'arbre et la condition de la nation d'Israël. D'ailleurs, dans Romains 11, on voit que Dieu va juger la nation d'Israël parce qu'elle ne reçoit pas son Messie. Et ici, il utilise justement l'analogie d'un arbre, qui est la vigne. D'ailleurs, Luc rapporte un incident important en ce qui concerne Jésus et son rapport avec la ville de Jérusalem, juste dans ce temps-là exactement de la semaine sainte. Cet incident se produit probablement la veille, c'est-à-dire le dimanche, avant que Jésus ne maudisse le figuier ici, qui était le lundi. Dans Luc 19, 41-44, on lit ceci, ce que Marc ne nous parle pas, mais Luc nous fait mention. « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Et il a dit, « Si tu connaissais... » Encore ici, on voit qu'il personnalise la ville de Jérusalem, tout comme il a personnalisé l'arbre. Maintenant, il personnalise comme s'il parle à une personne en parlant de Jérusalem, qui symbolise aussi le centre religieux et de la nation d'Israël. Donc, c'est comme Jérusalem, on parle de Jérusalem, on parle de la nation d'Israël. Ça dit, si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix. C'est incroyable, hein? Jésus ressent ce qui s'en vient. Et il sait que qu'est-ce qui s'en vient sur la nation d'Israël va être terrible. Et il sait aussi que ça n'a pas besoin d'être comme ça. Elle n'a pas besoin d'avoir à passer à travers autant si seulement elle se tournait vers son Messie. Si seulement elle accueillait ce que Jésus a à lui offrir. Si seulement elle ouvrait son cœur pour inviter Jésus à être le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Si seulement tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. C'est comme s'il y avait, comme si Jésus discernait que ton cœur est fermé. Malheureusement, ton cœur est fermé. Et ça ne sera pas possible cette fois-ci. Il va revenir. Et quand est-ce qu'il revient? Une chose qui est dit quand il va revenir, savez-vous c'est quoi? C'est que ceux qui l'ont percé, leur cœur va s'ouvrir. C'est ça qu'il est en train de dire. Un jour, la nation d'Israël va ouvrir son cœur par rapport à son Messie et ils vont l'acclamer. Mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts et ils vont t'écraser. Et c'est pour ça que Jésus pleure. toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Savons-nous reconnaître en Jésus celui qui peut nous donner la paix qui surpasse toute intelligence, et saisir le temps ou les temps où lui, le Fils de Dieu, désire visiter notre cœur? Parce que tout comme dans Apocalypse 3 où ça dit Jésus est là, puis il cogne à la porte. Et vous savez, c'est la porte de l'Église dans Apocalypse 3. Cogne à la porte de l'Église. Est-ce qu'on va entendre sa voix? Puis l'inviter à souper avec nous et nous avec lui. Vous savez, ensuite, Jésus fait une intervention qui est assez musclée dans le temple. Excusez. Alors, on sait que Jésus avait inspecté le temple avec soin une journée auparavant, le dimanche. Il avait certainement remarqué certains vices cachés. Il voyait à travers les murs, il voyait exactement la condition, non pas physique du temple, mais la condition spirituelle. Pourtant, ces vices-là semblaient être cachés aux yeux, en tout cas des leaders religieux qui avaient la responsabilité de préserver la pureté, le but premier pour lequel Dieu avait donné le temple et tout cela. Mais ils avaient plutôt fermé leurs yeux sur ce commerce excessif qui était fait, qui était motivé par la culpabilité, par la cupidité, excusez. Selon Jésus même, il dit que le temple était devenu une caverne de voleurs, un endroit où les voleurs se rassemblaient. C'était l'endroit favori de ceux qui voulaient extorquer des fonds, faire de l'argent. Il devait en payer une partie, mais il faisait de l'argent aussi en vendant toutes sortes de choses, en le vendant plus cher qu'ailleurs, puis en échangeant l'argent, puis en prenant encore là un profit sur l'argent qui était fait. Donc, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Jésus a vu quelque chose qui était assez particulier. Parce que ce qu'il a vu, c'est que les autorités religieuses avaient comme restreint l'accès du temple. Parce que, savez-vous où étaient installées ces tables-là, ces animaux qui étaient vendus, et le commerce, où est-ce qu'il se passait? C'était dans l'enceinte qui était réservée aux non-juifs. Alors, autrement dit, il n'y avait plus de place pour les non-juifs de venir dans le temple. On avait maintenant redédié cette salle pour l'endroit où va se faire le commerce. Et là, les non-juifs qui avaient cet endroit-là, c'est pour ça que Jésus dit, « Vous avez fait de la maison de mon Père, qui est une maison de prière, pour toutes les nations. » Et là, il soulignait le fait que les non-juifs aussi avaient une place dans le temple. Il y avait un endroit qui était désigné où eux pouvaient aller. Et s'ils voulaient adorer Dieu, s'ils voulaient eux aussi s'approcher du Dieu, de l'éternel Yahweh, le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël, bien, il y avait un endroit, même dans le temple, où ils pouvaient aller et offrir à Dieu leur louange, leur sacrifice et tout ça, leurs aumônes et ainsi de suite. Alors, c'était l'endroit qui était alloué à ces non-Juifs-là. Donc, ils n'avaient plus un endroit pour eux qui était un endroit paisible où ils pouvaient aller pour la prière. Là, c'était rendu un bazar, c'était rendu un endroit où il y avait énormément d'action et de vie et qui empêchait ces gens-là d'aller. Maintenant, la réaction des leaders a été quoi? L'indignation. Imaginez-vous, ils se sont indignés, non seulement à cause du grand ménage que Jésus venait de faire, mais aussi de la critique sévère à leur endroit d'avoir fait du temple cette maison de prière qui était dédiée aux non-juifs, un endroit pour eux, une caserne de voleurs. Mais en plus, on voit dans Matthieu 21, 14, qu'il a guéri des aveugles et des boiteux à la même occasion dans le temple. Et il a laissé en plus malheur des enfants crier dans le temple « Hosanna au fils de David! » Et Jésus n'aurait pas dû laisser faire ça. Pourquoi? Parce que « Hosanna au fils de David » était une allusion directe au fait qu'il était le Messie. Comprenez? Les leaders religieux, là, ils suivent là, ce qui se passe, mais ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas ce qui se passe. Alors, le texte nous dit qu'ils ont cherché les moyens de le faire mourir, voyant comment la foule était impressionnée par son enseignement et qu'elle l'écoutait avec admiration. Vous savez, lundi, mardi, la table est mise. À partir de maintenant, les choses vont aller de plus en plus difficiles pour Jésus. Son heure approche. Jésus va prendre le temps d'enseigner et ça va susciter encore plus de réactions négatives de la part des leaders religieux. Et là, ils vont chercher à tout prix à le taire, à l'emmener à arrêter. Ils veulent l'éliminer. Et ils vont réussir, du moins, en partie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu connais la condition spirituelle de nos vies à chacun d'entre nous, tout comme tu connais la condition spirituelle de cette Église. Seigneur, si tu venais parmi nous aujourd'hui, et si tu faisais une évaluation de notre état spirituel. Qu'est-ce que tu verrais dans nos cœurs, Jésus, ce matin? Qu'est-ce que tu verrais dans mon cœur? Est-ce que tu peux me le montrer, Seigneur? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux enlever? Des choses que tu veux que je t'abandonne, que je te laisse? Seigneur, je sais que tu ne veux pas te mettre en colère contre nous. Ce n'est pas ça qui caractérise même ta vie sur la terre, ton ministère. Tu es un Dieu de compassion, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de douceur, un Dieu de grâce. Seigneur, est-ce qu'on peut être au rendez-vous? Est-ce que tu es le bienvenu, Seigneur Jésus, dans ma vie, dans notre Église? Seigneur, est-ce que tu peux interagir avec chacun de nos cœurs. Viens vers nous, Seigneur. Viens vers nous. Sois patient envers nous, Seigneur Jésus. Et fais-nous grâce. Que nos cœurs puissent s'ouvrir. Est-ce que tu peux intervenir, Seigneur, dans ta bonté pour ouvrir notre cœur et te laisser faire tout ce que tu veux faire dans nos vies, Seigneur? On t'invite ce matin, Seigneur Jésus. Entends notre prière. Entends la prière de ceux et celles qui sont ici ce matin et qui ont soif de toi, Seigneur Jésus, qui veulent te laisser toute la place dans leur vie, mais qui ont besoin que tu fasses le ménage, que ce soit toi qui intervienne, Seigneur, et que dans ta grâce et dans ta bonté, tu leur fasses du bien. Que leur cœur puisse connecter avec le tien, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre. Nous nous tournons vers toi en ton nom, Jésus, pour ta gloire. Amen.